carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Annie Regon.
Bonjour et bienvenue au Carrefour des Arts. Aujourd'hui, nous allons parler de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer. En effet, je vous ai déjà parlé rapidement de la carrière de l'architecte Emmanuel Pontremoli, qui est né à Nice en 1865 et mort en 1957. Nous avons évoqué la culture classique de cet architecte, son prix de Rome avec la restauration de l'Arc de Trajan à Ancône, sa carrière de chef d'atelier et de directeur à l'École des Beaux-Arts. Il fut également à l'Académie des Beaux-Arts, académicien. Et puis, parmi ses principaux chantiers, nous avons parlé de l'Institut de paléontologie humaine en 1910, de la synagogue de Boulogne-Billancourt à peu près dans les mêmes années, et puis également du consulat de France à Smyrne. Aujourd'hui, c'est la Villa Kérylos qui va nous occuper. Et pour le coup, elle a occupé Pontremoli pendant 6 années de sa vie. En effet, c'est une commande tout à fait à part dans l'histoire de l'architecture, en raison de la personnalité du commanditaire, peut-être encore plus que celle de l'architecte, et en tout cas de l'excellente adéquation qui a existé entre les deux pendant toute la durée du chantier. Théodore Reynac a déjà été évoqué sur cette antenne. C'est un grand monsieur. Il est né en 1860 et mort en 1928. Il était membre de l'Institut, lui aussi membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses origines familiales se trouvent dans le nord de l'Europe. Ses parents étaient banquiers à Francfort et sont venus en France peu avant sa naissance. Il a 2 autres frères qui sont connus comme lui pour leur culture. Jacques, qui était homme politique, député, ami et collaborateur de Gambetta, et Salomon, lui aussi membre de l'Institut, archéologue, conservateur du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. En fait, Salomon Reynac s'était passionné pour l'archéologie française et on le trouve dans un certain nombre d'affaires un peu mystérieuses comme l'affaire de Glozel, par exemple, dans le département de l'Allier. Alors que Théodore, lui, eh bien, c'est l'archéologie grecque qui l'a toujours passionné. Donc Théodore, le commanditaire de la Villa Kérylos, était docteur en droit et docteur en lettres classiques. Il a également eu une carrière d'avocat au début de sa vie, d'homme politique puisqu'il a été député de la Savoie. Mais en fait, sa vraie passion, c'était la Grèce antique. Et très tôt, tout ce qu'il a pu faire pour ce pays, mais ce pays pendant l'Antiquité, il l'a fait vraiment avec beaucoup d'application, beaucoup de méthodes et beaucoup de succès. Il a étudié à peu près tous les supports archéologiques possibles, les papyrus, les monnaies, tout ce qui pouvait toucher à la Grèce antique l'intéressait. Il a même accompli des missions archéologiques et notamment à Istanbul, qui actuellement, bien sûr, est en Turquie, était déjà en Turquie à cette époque aussi, mais pour lui, il s'agissait de retrouver la Grèce. Parmi ses œuvres de paléographie les plus surprenantes, eh bien, on peut noter ce déchiffrement de la notation d'un hymne à Apollon qui avait été retrouvé par l'école française à Delphes. Il a déchiffré donc cette musique antique et il l'a confiée à Gabriel Fauré pour qu'il la mette en musique. On peut dire que c'est un petit peu étrange comme résultat. Et ce travail a d'ailleurs été repris récemment dans les années 90 par des collègues de l'université de Lille 3 qui ont poussé le sens de l'expérimentation jusqu'à faire ce que n'avait pas osé faire Théodore Reynac, c'est-à-dire réinterpréter ses hymnes dans le théâtre de Delphes, ce qui avait provoqué la venue autour du théâtre de bêtes sauvages et d'oiseaux sauvages qui tournoyaient au-dessus donc du théâtre, ce qui rappelait curieusement le mythe d'Orphée. Donc c'était quand même Théodore Reynac qui était à l'origine de cette aventure. Alors pour en venir à Théodore Reynac, il faut parler aussi un petit peu de son contexte familial. En effet, en 1886, il se marie une première fois avec Charlotte Hirsch, mais celle-ci meurt assez rapidement, non sans lui avoir donné 2 filles. Donc après la mort de Charlotte en 1891, il se remarie avec Fanny Kahn, qui est la cousine de Maurice Effrussi. Et celui-ci était propriétaire d'une superbe villa à Beaulieu-sur-Mer sur la Côte d'Azur, ce qui va sans doute peut-être inciter Théodore à acquérir aussi un terrain dans la même zone. C'est donc de cette proximité sans doute que naît chez Théodore Reynac le projet de faire construire sa propre demeure au bord de la mer. Il était déjà à la tête d'une immense bibliothèque et de collections importantes et il était père de 6 enfants, donc il souhaitait disposer de vastes surfaces. Mais ce projet n'est pas qu'utilitaire, loin de là. En effet, Théodore Énaque souhaite reconstituer une demeure grecque. Pour cela, il avait bien entendu son érudition, qui lui permettait de reconstituer la maison antique, tout au moins telle qu'on l'imaginait. Les fouilles de l'île de Délos avaient remis à jour des vestiges de plusieurs riches habitations de l'époque hellénistique, qui dataient en gros du 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, et ce que l'on avait trouvé pouvait éventuellement représenter l'organisation de l'espace intérieur de la vie domestique à l'époque hellénistique, encore que, naturellement, tous ces résultats doivent être sévèrement contrôlés. Car il faut bien reconnaître que si la maison romaine est bien connue, en particulier grâce aux fouilles de Pompéi, qui ont commencé dès 1748, avec plusieurs dizaines de maisons, aux statues et aux dimensions les plus variées, la maison grecque elle-même est par contre beaucoup moins bien connue. Alors Théodore Énaque a donc choisi un architecte partageant cette passion de l'archéologie grecque pour venir à bout de ce projet, Emmanuel Pontremouli, dont nous avons déjà parlé, qui était donc son coreligionnaire, et il semble que leur entente fut parfaite, ce qui n'est pas si fréquent pour une entreprise de cette envergure, même si les moyens financiers ne faisaient pas défaut au maître d'ouvrage, c'est le moins qu'on puisse dire. Théodore Énaque n'en était pas sa première entreprise architecturale, puisque quelques années auparavant, finalement pas très longtemps auparavant, il avait acheté un modeste château du XVIIIe siècle en Savoie, le château de la Motte-Servolex, et il l'avait fait transformer en un somptueux château néo-Louis XIII. Mais ça n'était pas Pontremouli son architecte, c'était un autre architecte. Mais il avait tout de même, on peut dire que peut-être il s'était un petit peu exercé à ce travail de maître d'ouvrage qui est tout de même assez difficile. Par parenthèse, le château de la Motte-Servolex n'appartient pas à l'Institut, il appartient, actuellement c'est un lycée agricole, mais on le voit très bien sur l'autoroute près de Chambéry, il se dresse vraiment très majestueusement. Alors on a l'impression d'un château Louis XIII quand même un peu gros. Donc en fait on voit très bien que c'est une intervention du XIXe siècle. Revenons donc à la Villa Kérylos. L'édification de cette villa a duré 6 années, ce qui n'est pas très long au regard de l'importance du chantier. 6 années, c'est même court pour un tel chantier, parce que nous allons voir que Pontremouli a vraiment conçu l'ensemble. Donc pour être à pied d'œuvre, si l'on peut dire, il est venu s'installer sur place, il est venu habiter à côté de son chantier. Alors je rappelle qu'il était né à Nice et que donc il connaissait bien la région, puisque Beaulieu-sur-Mer, ça se trouve entre Nice et Monaco, donc c'était tout près de chez lui. Il devait tout de même être très content, car c'était pour lui l'occasion unique de mettre en pratique ses idées et le fruit de ses recherches sur l'architecture grecque. En cela, donc, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pouvaient marcher la main dans la main, ce qui, je le répète, n'est pas toujours le cas. Le choix d'un site, évidemment, entre Nice et Monaco, sur un promontoire rocheux s'avançant dans la Méditerranée, n'a pas été le fruit du hasard. Ce choix de site a été effectué avec le plus grand soin, en relation bien entendu avec les sites connus de la Grèce antique. Cette partie de la Côte d'Azur, qui, bien que fréquentée déjà par les grands de ce monde, n'était pas encore, on peut dire, envahie comme elle l'est aujourd'hui, offrait des ressemblances plus que vraisemblables avec certaines îles grecques. De plus, il y avait un accès possible par la mer, ce qui est très important pour l'agrément des habitants de la maison, mais aussi pour le transport des matériaux, parce que c'est beaucoup plus facile d'arriver en bateau qu'en camion, surtout qu'à cette époque, les camions étaient tout de même assez rares. On parlait plutôt de charrois. Le parti architectural qui a été choisi par Pontremouli et Théodore Énaque, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, était donc d'essayer de reconstituer la maison grecque antique telle qu'elle était idéalisée en quelque sorte. Alors il fallait trouver des modèles, hormis ces quelques vestiges de maisons de l'île de Délos, eh bien c'était tout de même assez difficile. La littérature, depuis Homère, avait livré quelques descriptions partielles de palais, peut-être idéalisés. Également, on trouve dans la littérature grecque des évocations plus que des descriptions de maisons modestes, de cabanes de bergers, de petites maisons habitées par des personnes de la campagne. Et en fait, la maison moyenne n'existe pas, tout au moins dans la littérature. L'iconographie nous montre de nombreux détails d'intérieur de maisons, en particulier des détails de l'intérieur du gynécée, de la partie où vivaient les femmes, où elles étaient même obligées de rester. Et là, on a beaucoup de détails sur le mobilier, sur l'utilisation des rideaux, sur les sièges, sur un certain nombre de détails également de vaisselle, d'objets quotidiens. Mais c'est pas sur la panse d'un vase qu'on peut représenter toute une maison, enfin tout l'intérieur d'une maison, c'est évident. Donc, on n'avait pratiquement pas de modèle. Alors, Pontremoli pouvait se tourner vers les traités d'architecture, vers les écrits théoriques concernant l'architecture. Mais là encore, c'est un petit peu compliqué. Vitruve, le premier théoricien de l'architecture, lui, ça n'est pas un grec mais un romain. Il donne des indications concernant la maison, mais ça n'est tout de même pas tellement complet. Et en plus, ça ne concerne que la maison romaine. Le plus explicite des auteurs anciens qui pourrait avoir éventuellement été une source d'inspiration, c'était Pline. Pline, lui, décrit sa propre villa au bord d'un lac, d'ailleurs qu'on n'a toujours pas identifié, mais il s'agit d'une maison romaine une fois de plus. Dans une région, semble-t-il, de climat assez différent du climat grec, parce qu'il semblerait que cette maison se situait dans une zone peut-être de demi-montagne, et en tout cas pas du tout dans une région au bord de la mer. Et surtout avec une température qui ressemblerait sans doute plus à celle de la France. Les architectes de la Renaissance, eux, ne connaissaient pas les maisons de Pompéi, ni celles de Délos, mais pourtant ils ne s'étaient pas privés de reconstituer les habitations des Grecs et des Romains. L'imagination peut pallier à la réalité. En effet, quand on lit le traité de Palladio, donc Palladio a vécu de 1508 à 1580 et son traité a été publié à Venise en 1570, eh bien, on est très intéressé par le plan et l'élévation d'une maison grecque qui se présente comme un vaste ensemble de pièces organisées autour d'une grande cour carrée, pourvue de colonnades. Et en fait, cette maison ressemble davantage à un bâtiment public qu'à une demeure. Et il faut remarquer que cette proposition de l'architecte Vicentin a donné lieu à des réalisations effectuées par de riches Anglais ou Américains au XVIIIe et XIXe siècle. Nous allons retrouver Pontremoli après la pause.
Canal Académie.
Nous retrouvons Théodore Rénac et Emmanuel Pontremoli à la Villa Kérylos. Donc eux ne se tournent pas du tout vers les textes, mais seulement vers les découvertes archéologiques de Délos et également vers l'iconographie représentant l'intérieur des maisons. Pour le plan de la maison, ils vont donc s'inspirer effectivement de l'une des maisons de Délos, mais ils vont tout de même ajouter un certain nombre de points qu'on ne trouve pas dans l'architecture antique. En particulier, un soin extrême dans tout le second œuvre et dans tous les détails. Ce que l'on trouvait peut-être dans les maisons antiques, mais en tout cas qu'on n'a pas retrouvé de manière vraiment complète au niveau archéologique. Et puis une nouveauté, ça ne vous étonnera pas, c'est le souci du confort le plus moderne possible pour l'époque, en particulier l'électrification. Qui a, dans les années avant 1910, c'est tout de même assez rare. Enfin, on a électrifié quelques bâtiments publics, mais il faut penser que à ce moment-là, il n'y avait pas de réseau électrique comme aujourd'hui. Il a fallu faire venir l'électricité, bien sûr, jusque-là et depuis assez loin. Enfin, ça sont des détails techniques qui n'entrent pas dans le projet archéologique, mais qui sont quand même importants. En effet, l'organisation générale de la demeure est articulée autour d'un péristyle. Un péristyle à l'antique, avec des colonnes de marbre de Carrare. Ce sont des colonnes monolithes, c'est-à-dire qu'elles sont d'un seul morceau. Il a fallu les faire venir par la mer, depuis Carrare, qui se trouve sur la côte de la mer Méditerranée, pas très très loin, mais enfin c'était tout de même un transport qui a dû coûter très cher. Ces blocs ont été sculptés par un artiste italien qui s'appelait Nicoli, qui a sculpté à la fois les colonnes et leurs chapiteaux, bien entendu dans un style tout à fait classique. Les pièces principales de l'habitation étaient disposées de telle façon que les vues en enfilade laissent découvrir les colonnes du péristyle, ou des échappées sur la mer, ou des échappées sur le jardin, ou des échappées sur les colonnes et le jardin, ou les colonnes et la mer. Enfin, c'est vraiment très subtil et c'est très très beau, bien sûr, puisque en fait, cette maison était faite pour toujours voir assez loin. Il y avait le souci du coup d'œil qui était constant. Les concepteurs grecs, eux, ne pouvaient pas envisager la maison de cette façon, en tout cas pas de vue sur l'extérieur chez les Grecs, puisque, il faut rappeler quand même, c'est un détail important, que les murs extérieurs isolaient complètement la maison, qu'il n'y avait pas de vue sur l'extérieur, puisque la maison devait être complètement fermée, ne serait-ce qu'en raison de la présence des femmes, des enfants, de certains esclaves qui ne devaient pas sortir, ou le moins possible. Si bien que cette espèce d'ouverture vers l'extérieur, vers la mer, vers le paysage, c'est quelque chose évidemment qui nous charme beaucoup aujourd'hui, mais qui n'a absolument rien d'archéologique. Les peintures murales qui évoquaient les peintures des vases grecs, qui sont tout à fait, enfin vraiment très teintées de l'influence symboliste. Alors on ne peut pas confondre avec des peintures de Maurice Denis, bien sûr, mais c'est tout de même vraiment la peinture de la mode de l'époque qu'on retrouve très bien. Elles sont dues à un peintre d'origine de l'Est de l'Europe qui s'appelait Adrien Karbowski et un autre artiste français, Gustave-Louis Jaulm. Il y avait également un décor de stuc qui était dû à Paul-Jean-Baptiste Gasque. Et ce décor de stuc est très très beau, très fin, très raffiné. Il rappelle davantage les stucs romains que grecs, puisque des stucs grecs, à mon avis, enfin, je ne sais pas s'il y en a eu dans les maisons, mais on n'en connaît pas beaucoup. Le décor de stuc est un décor très très raffiné, mais qui est très fragile et qui a mal traversé les années. Les portes ont été remplacées par des tentures de lin. Puisque je disais tout à l'heure qu'il y avait un souci de l'enfilade, du coup d'œil tout à fait étonnant dans cette villa. Ces tentures de lin étaient brodées, de motifs à l'antique bien sûr, par des ouvrières de la maison Écochard de Lyon. C'était vraiment le top. Là, c'est quelque chose, je pense qu'on ne pouvait pas trouver plus beau à cette époque. Naturellement, Pontremoli avait dessiné tout ça, les broderies pour les portières de lin et autres détails. Et aussi, il a dessiné tout le mobilier, y compris un piano, qui bien sûr n'est pas tout à fait antique. Mais il s'était débrouillé pour que le piano, en fait, ne choque pas dans le coup d'œil général du salon. C'est un piano droit quand même, ça n'est pas un piano à queue. Mais il ne faut pas oublier que Théodore Rénac aimait beaucoup la musique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, puisqu'il avait transcrit les hymnes du temple d'Apollon à Delphes. Donc il ne pouvait pas se passer de piano. Puis de toute façon, à cette époque, dans une grande maison comme celle-ci, on ne pouvait pas se passer de piano, c'était absolument indispensable. Alors, tout le mobilier a été exécuté par un ébéniste parisien, Bettenfeld, et la vaisselle de table qui était aussi, qui imitait la vaisselle antique, mais ça, c'est beaucoup plus facile d'imiter la vaisselle antique parce que, en archéologie, depuis très longtemps, ce que l'on retrouve le plus facilement, ce sont justement des tessons, donc des vases, des plats, des assiettes, on en a beaucoup. Donc, ça n'a pas été le plus difficile à reconstituer, et c'est Émile Lenoble qui a reconstitué ce service de vaisselle de table pour la famille Rénac. Alors tout cela, bien sûr, avec un souci de confort, avec des salles de bain et avec l'électricité, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le jardin, qui n'est pas très grand parce que la sorte de péninsule sur laquelle s'élève la villa ne permettait pas une très très vaste étendue, mais enfin c'est tout de même un très beau jardin. Et puis il ne faut pas oublier que dans les pays méditerranéens, eh bien le jardin fait partie vraiment des lieux d'habitation de la famille et même des invités, encore plus sur la Côte d'Azur. Alors ce jardin donc a été conçu en même temps que l'habitation et sur la mer, il y a des échappées magnifiques. Alors il y a un mur tout à fait particulier, c'est un mur avec de larges ouvertures qui permettent de voir le paysage. Le mur à grandes ouvertures, c'est tout de même plutôt une caractéristique que l'on trouve en Italie qu'en France. Alors, on peut dire que Théodore Rénac et Pontremoli ont réalisé leur rêve. C'est un projet qu'on peut rapprocher un petit peu des entreprises des aristocrates anglais dont je parlais tout à l'heure, qui à la fin du XVIIIe au début du XIXe siècle, étant épris de culture antique, souvent à travers les modèles de la Renaissance. Ce projet donc n'a tout de même rien d'un pastiche ou d'une vague imitation. Il s'agissait bien, dans l'esprit du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, d'une mise en pratique des connaissances acquises de l'art grec, d'une expérimentation sous un climat proche de celui du climat d'origine. À sa mort en 1928, Théodore Rénac légua sa villa à l'Institut. Mais conformément à ses volontés, ses enfants et petits-enfants l'occupèrent jusqu'à 1967, date à laquelle, après son classement parmi les monuments historiques, elle fut l'objet d'une restauration minutieuse et assez difficile puisque un certain nombre d'objets étaient extrêmement fragiles et tout n'a pas pu être récupéré. Actuellement, la villa est ouverte au public et elle accueille aussi des activités naturellement initiées par l'Institut. La Villa Kérylos occupe donc une situation tout à fait particulière dans l'architecture des villas de la Côte d'Azur d'avant 1914. On peut faire quelques comparaisons avec, par exemple, la Villa Île-de-France, donc, qui appartenait à la famille de Madame Théodore Rénac à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est un monument très intéressant et très beau, mais complètement éclectique, avec des apports de tous les styles de tous les pays. Le domaine des Colombières à Menton par Ferdinand Bach comporte quelques références antiques, mais c'est totalement fantaisiste. Il y a également à Roquebrune-Cap-Martin une villa très très riche qui était construite avec de gros moyens pour les propriétaires des magasins du Louvre en 1904, dans un style néo-byzantin qui est très esthétique. Enfin, c'est très attirant, c'est très beau, mais ça n'a absolument rien d'archéologique. Les jardins sont particulièrement beaux dans cette villa. De même que, pas très loin aussi, il y a à la Villa Torre Clementina tout un ensemble orientaliste, mais complètement éclectique aussi. Donc, pour conclure, on peut dire que la Villa Kérylos est un lieu original et important pour l'histoire de l'architecture, car il résume, comme l'ont écrit déjà plusieurs auteurs, le songe de deux amoureux de la Grèce. Et c'est pourquoi on ne peut que vous recommander d'aller la visiter.